On va prendre ensemble 2 Corinthiens, chapitre 3, ce matin. On va lire le chapitre en entier. Paul dit, « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu es encore avec nous ce matin. Tu es avec nous dans nos cœurs. Merci pour ton salut, pour le pardon de nos péchés. Merci parce que tu es notre soutien, tu es notre force, tu es notre aide. Et Seigneur, c'est sur toi que nous comptons encore ce matin. C'est sur toi que je compte. Merci Seigneur parce que tu es celui qui vient suppléer à la faiblesse humaine. Et Seigneur, je te demande ton aide, ton secours, ta grâce, ton soutien, ta force, ta puissance, ta présence. Seigneur, que tu nous bénisses, non à cause de nous-mêmes, mais à cause de toi, à cause de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous rends capables d'être ministres de cette nouvelle alliance. Et Père, fais-le par ta grâce et en toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai intitulé ce message « La gloire de la Nouvelle Alliance ». La gloire de la Nouvelle Alliance. Parce qu'on va voir ensemble que Paul fait un contraste entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, et il n'arrête pas comme cela dans tout le texte. Donc, on a une Bible composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Certains se demandent, mais pourquoi il y a un Nouveau Testament ? À quoi ça sert ? Il y a un Ancien Testament. Et en fait, c'est deux alliances. Donc là, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Donc l'Ancienne Alliance, elle s'est ouverte par la loi de Moïse. Et il suffit de lire toute la loi dans la Torah, les livres de la loi. Et on voit tous les termes de l'Ancienne Alliance, tout ce qu'elle comporte. C'était une alliance qui était conditionnelle. Elle était basée sur l'obéissance aux lois de Dieu. Et Dieu disait, si tu obéis, alors voilà les bénédictions qui seront sur toi. Si tu désobéis, alors voilà toutes les malédictions qui seront sur toi. C'est Dieu qui a dit ça à Israël, mais Dieu avait un but en donnant cette loi spécifiquement à Israël. On va le voir un petit peu plus loin dans le texte, mais la première alliance n'était pas une fin en elle-même, ce n'était pas un aboutissement, c'était juste une transition, c'était un passage. Dieu était en train de préparer autre chose, une alliance qui allait être beaucoup plus glorieuse. Et ce qui est merveilleux, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, quand on lit, Dieu parle déjà de la Nouvelle Alliance. Regardez avec moi Jérémie 31, versets 31 à 34. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Celui-là, son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc Dieu parlait déjà de cette nouvelle alliance dans l'Ancien Testament. Et on voit une grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est que la première alliance était écrite, gravée sur des tables de pierre. On en a une illustration quand vous êtes devant le tribunal de Perpignan. Hein, parce que vous avez remarqué, mais il y a Moïse avec les tables de la loi. Voilà, alliance gravée sur des tables de pierre. Mais la nouvelle alliance, eh bien, elle est écrite dans les cœurs. Elle est gravée dans les cœurs. C'est quelque chose de complètement différent. Et ce matin, on va voir sept caractéristiques de cette nouvelle alliance qui est plus glorieuse et dont nous sommes au bénéfice. C'est une grâce parce que cette alliance, elle a été conclue avec nous, hein, nous qui croyons et si nous croyons en Jésus-Christ ce matin. Alors la première caractéristique, c'est justement qu'elle est écrite dans les cœurs, à l'intérieur, dans notre cœur. Quand vous reprenez 2 Corinthiens, au début de ce chapitre 3, on voit que Paul va se défendre contre ceux qui l'accusaient. Et à l'époque, il était question d'avoir des lettres de recommandation. On envoyait une lettre de recommandation parce que bien quelqu'un pouvait se présenter, se faire passer pour ou essayer d'avoir un crédit auprès d'une assemblée, comme on ne se connaissait pas les uns les autres. Hein, alors, eh bien, il y avait une lettre de recommandation. Alors, c'est quelque chose qui se fait encore hein, dans certains milieux. Il y a des lettres de recommandation, ça existe toujours. Hein. Mais en fait, ces personnes qui attaquaient l'apôtre Paul vont dire, mais est-ce que Paul a une lettre de recommandation? Est-ce que il y a quelqu'un qui a écrit, qui légitime son ministère? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'on peut se fier à lui? Est-ce que c'est un vrai apôtre? Et ils essayaient d'insinuer comme ça du doute, hein, quelque chose dans l'esprit des Corinthiens. Mais Paul dit, versets 2 à 4, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et il n'avait pas besoin de lettre de recommandation, parce que sa recommandation, c'était l'église de Corinthe. Et c'était quand même incroyable qu'on remettait en question, on essayait de remettre en question le ministère de l'apôtre Paul auprès des Corinthiens, alors que Paul était resté un an et demi, c'est lui qui les avait gagnés au Seigneur, en tout cas beaucoup d'entre eux, et donc c'est la preuve qu'il était recommandé de Dieu, c'était la conversion de tous ces Corinthiens qui étaient là, c'était la preuve. Et par la puissance de Dieu, eh bien, Dieu s'était servi de l'apôtre Paul pour venir graver, pour venir nicher sa loi dans les cœurs par le Saint-Esprit. Puisque comme ils avaient reçu le Saint-Esprit, alors eh bien, c'était la loi qui était dans leur cœur. On a lu dans Jérémie, « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et c'est par l'Esprit de Dieu qui entre dans le cœur d'une personne que la loi de Dieu, elle est là. Elle est là parce que c'est la parole, c'est l'Esprit qui est là dans la personne. Et quand on a l'Esprit de Dieu en soi, eh bien, l'Esprit opère une révolution. Il transforme la vie, transforme le cœur, transforme l'existence. Et les Corinthiens savaient exactement de quoi il s'agissait, puisqu'ils le vivaient. Ils s'étaient convertis à Jésus-Christ. Ils avaient vécu cette transformation de l'intérieur. et l'Esprit les changer, l'Esprit les pousser à vouloir faire le bien, l'Esprit les sanctifier, il agissait en eux chaque jour, il les poussait à aimer, à pardonner. Et ça, c'est une caractéristique de la Nouvelle Alliance, c'est cette œuvre de l'Esprit qui vient s'inscrire dans le cœur de la personne. Paul dit que cette lettre de Christ, cette lettre vivante a été écrite dans leur cœur par son ministère. Parce qu'il était en train de dire, mais arrêtez, la preuve que je viens bien de Dieu, mais c'est vous quoi, c'est vous les Corinthiens. Alors il cite son ministère. Il dit, mais c'est mon ministère qui a donné naissance à l'église de Corinthe. Mais tout de suite, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et même s'il met en avant son ministère et celui de ses collègues, hein, il dit « nous », il ne voulait surtout pas qu'on se méprenne. Et c'est touchant de lire cette parole de Paul, de ce serviteur-là. Parce que Paul était loin d'être un incapable, loin d'être quelqu'un qui n'était pas apte à enseigner, apte à reprendre, apte à corriger. Au contraire, hein, il avait toute la connaissance de l'Ancien Testament, il avait plein de capacités humaines, hein, c'était un leader né. C'était facile pour lui de conduire, c'était naturel. Mais là, eh bien, il dit, voilà, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Et un homme mûr, une femme mûre dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui arrive à la conclusion qu'il est incapable par lui-même. Nous sommes incapables par nous-mêmes. Et tant que nous pensons être capables de quelque chose, ben, nous n'avons pas encore compris. D'ailleurs, Paul dit ailleurs, hein, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc en fait, il y a tout un travail dans la vie chrétienne, c'est que Dieu petit à petit nous amène à comprendre que nous sommes incapables. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, rien. Sans lui, c'est impossible. Sans lui, on ne peut pas y arriver. Il veut nous apprendre à devenir complètement dépendants de sa personne, dépendants de Jésus-Christ. Parce que dans la dépendance de Christ, eh bien, on a la délivrance de nous-mêmes. Et Dieu veut nous amener à cette délivrance de nous-mêmes. Il y a une autre version que j'aimerais vous lire, parole vivante. Paul dit en quelque sorte, « Nous nous appuyons sur Dieu, car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas même concevoir une pensée valable de notre propre initiative. » Ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Quand on lit ça, si vous lisez ça à quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, il dit, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Eh bien, si. Dieu nous amène finalement à comprendre que tout est en lui. Et la délivrance, elle est justement quand on est délivré de nous-mêmes et qu'on ne compte plus sur ses propres forces, mais sur Dieu. Hein? Comme dit les proverbes, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais confie-toi en l'Éternel. On voit maintenant une deuxième caractéristique de la Nouvelle Alliance. Verset 6, il dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Et l'Ancienne Alliance, donc l'Alliance qui était écrite au travers de Moïse, était une alliance qui tuait dans le sens où elle conduisait à la mort. Si quelqu'un n'obéissait pas à la loi, c'était la mort. La loi, eh bien, le condamnait. Mais la Nouvelle Alliance, c'est une lettre qui est écrite par l'Esprit et c'est une lettre qui mène à la vie, une lettre qui vivifie, hein, une lettre qui pousse vers la vie. La loi, par exemple, disait « ne convoite pas ». Et puise dans tes propres forces, hein, l'énergie pour ne pas convoiter. Donc, elle ne donnait pas la force d'accomplir. Tandis que la loi par l'Esprit, elle donne la vie. Elle donne la capacité aussi de renoncer, de reculer, de repousser, la force d'obéir à Dieu par la consécration, par le renoncement à soi-même. Jésus a dit, car la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, c'est celle qui tue. Donc il dit, elle est venue par Moïse. Et il ne faut pas croire que la loi, elle est mauvaise. Ce n'est pas que la loi est mauvaise. Au contraire, la Bible dit que la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Dieu juge le péché, c'est légitime, c'est normal qu'il juge le péché. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pendant longtemps, je ne comprenais pas ce verset. Mais en fait, la grâce, c'est un autre aspect de la personne de Dieu. La loi est venue par Moïse. Et c'est vrai que quand certaines personnes lisent l'Ancien Testament, ils disent « Mais Dieu est un Dieu vengeur, c'est un Dieu dur. » Et ils ont du mal à discerner le visage complet de Dieu. Et c'est vrai que quand on lit que l'Ancien Testament, et particulièrement tous ces textes qui sont assez sévères sur le jugement, eh bien, on voit un aspect de Dieu. Mais on n'a pas la vision complète de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là, vous avez un autre aspect de la personne de Dieu. C'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est le pardon. C'est oui, Dieu est un Dieu sévère et qui juge le péché, mais Dieu aussi plein de grâce, un Dieu plein de bonté. Et ça, c'est la vérité. Là, vous avez une vision complète de Dieu. La grâce, la vérité, c'est la grâce et la loi. La lettre tue, mais Dieu ne nous a pas laissés qu'avec la lettre. Il nous conduit vers une nouvelle révélation, la révélation au travers de l'Esprit, l'Esprit qui vivifie. Ça, c'est la deuxième caractéristique de cette nouvelle alliance. C'est une œuvre de l'Esprit qui vient nous vivifier, nous donner la vie. Troisième caractéristique, versets 7 à 11. « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » Et une troisième caractéristique de cette nouvelle alliance par l'Esprit, c'est que c'est beaucoup plus glorieux que l'ancienne alliance. Déjà, le don de la loi était quelque chose de glorieux. Et il cite l'exemple de Moïse qui était redescendu de la montagne du Sinaï avec le visage qui rayonnait. Et même quand il entrait dans la tente ensuite, eh bien, il rayonnait. Alors, il entrait dans la tente, il ôtait un voile et quand il ressortait de la tente, il se voilait le visage pour pas qu'on voit son visage qui rayonne. Et donc, le fait d'avoir passer un temps dans la présence de Dieu, ça modifiait son aspect extérieur. Parce que c'était une loi qui venait d'en haut, c'est la loi divine, et c'était la présence de Dieu, un Dieu pur, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu parfait. Mais il dit que la gloire de la deuxième alliance est beaucoup plus grande. C'est un petit peu comme si vous êtes chez vous, il y a un orage, vous allumez les lumières, vous êtes bien éclairé. Et puis l'orage passe, le soleil reparaît, et puis là le soleil inonde votre pièce, vous pouvez en oublier la lumière, tellement il y a de lumière, bien c'est pareil. C'est la gloire de l'ancienne alliance était glorieuse, mais la gloire de la nouvelle alliance est sans commune mesure, elle dépasse tout, elle est beaucoup plus supérieure. Et pourquoi elle est supérieure? Les autres caractéristiques nous permettent de le comprendre. Regardez, verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Quatrième caractéristique de la nouvelle alliance, c'est un ministère de justice et non de condamnation. Et c'est vrai que la loi, elle conduit invariablement à la condamnation de l'homme. Regardez Galates chapitre 3 et verset 10. Galates chapitre 3 et verset 10. Il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, malédiction, condamnation contre celui qui n'obéit pas à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et on s'est dit, mais qui pourrait le faire? Qui pourrait réussir à remplir toute la loi? Obéir à toutes les lois, c'est impossible. Impossible. Ailleurs, dans Romains, il dit, Dieu a renfermé donc tous les hommes dans la condamnation. Nous sommes tous enfermés dans la condamnation, puisque nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut échapper à la condamnation. Et dans l'Ancien Testament, si heureusement les croyants pouvaient échapper à la condamnation, c'est parce qu'ils croyaient en Dieu et qu'ils voulaient bien mettre en pratique les sacrifices que Dieu avait prescrits, notamment à Israël. Et Dieu bien couvrait le péché pour un temps jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et meure pour les péchés. Donc la loi, elle a été donnée essentiellement pour révéler le péché, pour manifester et puis pour condamner celui qui ne venait pas à Dieu au travers des sacrifices. Mais la nouvelle alliance, c'est que Jésus-Christ est venu prendre sur lui la malédiction. Toute la malédiction de la loi, il a pris sur lui. On le lit encore dans Galates 3:13, un petit peu plus loin. Il dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Et donc, quand Christ a été mis en croix, la malédiction, voilà, il a été fait malédiction. C'est fort, ça. Il y a quelques années, on a accueilli une chorale américaine et il y avait un jeune prédicateur qui devait prêcher un message en anglais. Donc, c'était très court et il n'y avait personne pour traduire, donc j'ai essayé de traduire. Et à un moment, il a dit que Jésus a été maudit. Mais d'entendre ça, j'avais du mal à le dire, en fait. Parce que j'avais pas intégré complètement cette idée-là. Mais c'est la réalité. Il y a eu une malédiction. Il a été fait malédiction pour nous. C'est quelque chose de très fort. Malédiction pour nous. La condamnation est tombée sur lui. Et en fait, il nous libère de cette épée de Damoclès qui est au-dessus des têtes et qui menace de tomber et de nous tuer. Mais plus que cela, Jésus en plus nous accorde sa justice. Il nous donne sa justice parfaite. Il la met à notre crédit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être avec une personne ayant des droits d'entrée quelque part, libre d'entrée quelque part, où ça vous est interdit. Et puis, puisque vous êtes avec elle, eh bien, hop, vous arrivez à passer et vous pouvez entrer. Eh bien, la porte du ciel est fermée. Entrée interdite. Entrée interdite. Mais Christ, le juste, lui, peut entrer. Et si lui met sa main sur notre épaule, nous couvre de sa justice, alors, eh bien, avec lui, on peut entrer. Entrer dans le ciel. Par la foi, Dieu met à notre crédit sa justice. Imaginez, vous devez 100 000 euros à quelqu'un. Vous avez une dette de 100 000 euros. Et puis, imaginez, soudain, votre dette est effacée. C'est soulagement. Et puis, l'instant d'après, on vous donne 1 000 000 d'euros. Oh, voilà. On se sent beaucoup mieux, hein. C'est quand même vraiment mieux. Et donc, c'est passé d'une situation qui est complètement inconfortable, on n'est pas bien avec une dette, un soulagement, libéré. Et puis, on me donne 1 000 000. Et là, c'est très très confortable, hein, vraiment très confortable. Et bien c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus a pris notre dette, il l'a effacée, et il met à notre crédit sa vie parfaite. Sa justice, sa vie, il nous la donne. Et là on dit, merci Seigneur, qu'ai-je à craindre? Qu'ai-je à craindre? Rien. Cinquième caractéristique de la Nouvelle Alliance, cette œuvre de l'Esprit n'est pas passagère, mais elle est permanente. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et il fait de nouveau référence au caractère passager de la loi. La loi n'était pas une fin, ce n'était pas un aboutissement, mais c'était une transition, un passage vers quelque chose qui était nouveau et quelque chose qui était permanent. Donc la loi n'était pas une solution pour nous pécheurs, elle était plutôt un problème. Par elle, Dieu nous montrait que nous étions coupables et que sa justice et sa sainteté étaient si élevées que c'était impossible. C'est impossible d'y parvenir par nos propres forces. Donc la loi posait le problème et donc il n'était pas prévu qu'on reste sous ce régime de la loi. Mais il fallait passer à quelque chose de meilleur, quelque chose qui nous permet de transcender, aller au-dessus de la loi, franchir la difficulté. Et Dieu a donné la nouvelle alliance qui donne la solution et elle est permanente. Elle durera toujours, hein, elle nous sauve définitivement pour l'éternité. Il ne va pas y avoir une autre alliance qui va remplacer celle-là pour nous. Non, elle est parfaite. Elle est parfaite. Sixième caractéristique de la nouvelle alliance, c'est une œuvre de l'Esprit qui libère. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et la vie sous le régime de la loi était quelque chose de difficile. Parce qu'il y avait toutes les lois morales de Dieu, notamment les 10 commandements, mais il y avait aussi les lois cérémoniales, donc toutes les cérémonies, les sacrifices et toutes ces choses. Il y avait aussi toutes les lois sociales, vous pourriez dire les lois civiles, les lois sanitaires. Vous voyez la somme des lois, hein. Et si on voulait plaire à Dieu, eh bien c'était indispensable de lire la loi pour ne pas la transgresser, pour rester fidèle aux Écritures. Même aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à lire le Lévitique. Mais eux, ils lisaient le Lévitique et le relisaient encore. Toujours frappé de voir, ils lurent la loi pendant 4 heures. 4 heures de loi. C'était quelque chose, hein. Et toutes ces lois, ça régissait leur vie. Ils voulaient être fidèles à toute cette loi. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas lire la Bible. Au contraire, il faut la lire, la relire, hein, il faut s'en imprégner, hein, la serrer dans notre cœur. Mais on use maintenant d'une grande liberté. On a vu tout à l'heure que la loi est maintenant inscrite dans notre cœur. Elle est là, dans notre cœur. En lisant, eh bien Dieu ne cesse de nous la rappeler, hein, mais elle est là dans notre cœur. Regardez Romains 8, 14 et 15. Romains 8, 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et nous sommes des fils, des filles qui ont été adoptées. Et maintenant l'important, eh bien, c'est de vivre dans cette adoption, de vivre par l'Esprit, dans la dépendance du Saint-Esprit. Et ce n'est plus une vie triste, une vie austère, une vie qui est faite d'interdictions, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça la vie avec le Seigneur. Mais c'est une vie joyeuse, une vie en communion avec un Père qui est bon, un Père qui nous aime, un cœur qui prend soin de nous et qui nous libère de la vanité et du mal. Dans l'Épître aux Galates, il y a deux alliances. Et Dieu nous donne deux images pour les deux alliances. Il nous parle d'Agar et nous parle de Sarah. Donc, deux femmes, entre guillemets, pour Agar d'Abraham. Et l'ancienne alliance, il dit, c'est Agar, l'esclave, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, elle représente la loi. Il dit, elle est dans la servitude avec ses enfants. Et pour Sarah, il dit, mais c'est la femme libre. Et là, ça représente la nouvelle alliance, en fait. L'alliance en son sang. On a une image. Et il dit que les enfants de Sarah, c'est les enfants de la promesse. En fait, c'est les enfants d'Abraham. Hein, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ pour nous. Et un peu plus loin, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et dans tout le contexte du Galate, il est en train de parler de la circoncision et de ces hommes qui voulaient remettre les croyants sous la loi, en fait, finalement. Et il dit, mais c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Vous n'êtes plus sous cette ancienne alliance, vous êtes sous la nouvelle alliance, l'alliance en son sang. Et puis, septième et dernière caractéristique, la nouvelle alliance s'expose librement. Regardez verset 13, il dit « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Et Moïse se mettait un voile, donc on en a parlé tout à l'heure, pour se cacher. Et Paul le prend comme une illustration pour nous enseigner qu'il ne fallait pas s'attacher à ce qui était passager. S'il mettait un voile pour cacher, eh bien Dieu, quelque part, disait, mais ne vous attachez pas à cette gloire-là, cette gloire de la loi qui est passagère. Ce n'était pas, encore une fois, une finalité, un aboutissement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la majorité des juifs religieux restent concentrés, malheureusement, sur la loi, hein, comme si la loi pouvait procurer la justice. Versets 14 à 16, il dit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Et si Dieu a permis que Moïse se cache le visage pour pas qu'on voit la gloire, c'était pour que les Juifs, eh bien, ne s'attachent pas à cette gloire de la loi qui était passagère. Mais Israël s'est attaché, malheureusement, à la gloire de cette loi. On lit dans l'Exode, « Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. » En fait, ils étaient subjugués. Ils pensaient que c'était l'accomplissement, la révélation n'était que là. Alors Dieu a permis qu'un autre voile tombe sur leur cœur une fois que Jésus-Christ est venu. Comme ils n'ont pas accepté cette nouvelle alliance, bien un autre voile est tombé sur leur cœur. Et ce voile les empêche de voir Jésus-Christ dans la lecture de l'Ancien Testament. C'est fort. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne voient pas Jésus-Christ. Et il faut qu'ils se convertissent à Jésus-Christ pour que le voile soit ôté. Donc il faut qu'ils acceptent de s'ouvrir à l'éventualité, mais peut-être que Jésus-Christ est le Messie d'Israël. Et c'est fou de voir, malheureusement, des Juifs qui ne veulent surtout pas lire le Nouveau Testament. Ils le fuient. Vous leur offrez un Nouveau Testament, ils n'en veulent pas. C'est triste. Mais s'ils ne s'ouvrent pas un tout petit peu, eh bien, ils resteront dans leur aveuglement. Mais s'ils se convertissent à Jésus, alors le voile est ôté. Et c'est là, soudain, où ils peuvent prendre conscience que la loi de Moïse n'était pas une finalité, mais c'était une transition. Tel le visage de Moïse, la loi était recouverte d'un voile. Mais pour la nouvelle alliance, eh bien, il n'y a pas de voile. Le voile est ôté. Regardez verset 18. Il dit, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Alors, il y a deux choses. Premièrement, notre visage est découvert, plus de voile. Moïse mettait un voile. Nous, plus de voile, il n'y a plus rien à cacher. Au contraire, Dieu veut qu'on voit la gloire de cette nouvelle alliance. Alors, on ne brille pas, mais néanmoins, on peut quand même briller dans le Seigneur en vivant notre vie avec lui. Et un deuxième aspect, c'est qu'il n'y a plus non plus de voile pour celui qui est comme celui qui est jeté sur le cœur des Juifs qui font la lecture de l'Ancien Testament. Nous pouvons maintenant regarder librement la gloire de Jésus-Christ. Et à ce sujet, le verset 18 a été traduit par Darby d'une manière intéressante. C'était le verset qui était affiché. C'était la version Darby que j'aime beaucoup pour ce verset. Je ne sais pas si tu arrives à l'afficher. Où il dit « Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. » Et on voit les deux aspects, les deux vérités ici. Hein. D'abord, nous contemplons à face découverte. Voilà, il n'y a plus rien entre nous et lui. On peut contempler, on n'a plus rien. On n'a plus à cacher notre visage. Et on contemple la gloire du Seigneur. Donc, il n'y a plus un voile qui nous empêche de voir la gloire du Seigneur, notre Sauveur. On le voit clairement. Le voile disparaît complètement quand on se convertit à Jésus-Christ. Et là, pour terminer, dans cette contemplation de notre Seigneur bien-aimé, il s'opère un miracle. Il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. Et on n'a pas à se transformer soi-même. On ne pourra jamais se transformer soi-même par nos propres forces. Hein. C'est impossible. On n'arrivera même pas à arrêter complètement une chose et à faire vraiment d'autres choses, on n'y arrivera pas. Mais il dit que quand on contemple Jésus-Christ, quand on s'attache à entretenir notre communion avec lui, notre relation, que voilà, on veut vivre pour lui, quand on contemple Jésus-Christ, alors eh bien, c'est là que s'opère la transformation dans notre cœur. Il nous transforme petit à petit à sa ressemblance, à son image. En fait, Dieu va imprimer son visage, l'image de son Fils bien-aimé dans nos cœurs. C'est un miracle, c'est une grâce, et c'est ce que Dieu fait dans la Nouvelle Alliance. Alors, quand on voit tout ça, on voit la gloire de cette Nouvelle Alliance, alliance écrite dans nos cœurs, alliance qui donne la vie, alliance qui donne la justice, qui met la justice de Christ à notre crédit, alliance qui va durer toujours, alliance qui libère, alliance qui transforme, c'est une grâce. Et c'est pour quiconque veut, quiconque croit. Le Seigneur a ouvert l'alliance et l'alliance est toujours ouverte. C'est un peu comme la porte de l'arche. La porte est toujours ouverte. On peut entrer. Il suffit de dire, moi, je veux, Seigneur. Je saisis ta main. Seigneur, sauve-moi. Donne-moi la vie. Et hop, on est sauvé. On a la vie éternelle. On est au bénéfice de l'Alliance. J'aimerais vous lire un dernier verset, c'est Apocalypse 22, verset 17, pour conclure. Il dit, « Et l'Esprit et l'Épouse, c'est l'Église, et l'Esprit et l'Église disent, viens. Nous vous disons, viens. Si tu n'as pas encore cru, eh bien, on te dit, avec l'Esprit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Cette semaine, en étude biblique, on est en train de faire le début de l'Apocalypse, et il y a les premières lettres qui sont écrites aux églises, dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Et il y a cette parole qui revient sans cesse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dise aux églises. Jésus, déjà dans les évangiles, le dit, que celui qui a des oreilles entend. Et si Dieu nous dit et nous redit ça, et ici nous le redit encore, que celui qui entende, il faut entendre. Dieu nous parle. Il nous parle par les circonstances de la vie, il nous parle par des épreuves, il nous parle par des choses où ça grince, ça n'avance pas, ça coince, il nous parle par des mots, il nous parle de plein de manières différentes. Mais si on ne veut pas entendre, on peut se boucher les oreilles et refuser d'entendre. Et malheureusement, eh bien, on passe à côté de cette nouvelle alliance, de cette grâce qu'il nous offre. C'est pour ça qu'il dit, voilà, que celui qui entende, eh bien, dise aussi « viens », que celui qui a soif, vienne. Voilà, c'est une offre, hein, une invitation, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, qu'il entre dans la nouvelle alliance.